Bonjour à tous, tous ceux que j'ai pas le temps de saluer, mais bon, rebonjour aux autres. Merci au Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Je dois pas oublier, mon épouse aurait bien aimé être avec nous ce matin, mais on a la joie d'avoir nos petits-enfants à la maison, donc voilà. Alors elle vous salue bien, chacun, ceux qu'elle connaît, ceux qu'elle connaît moins. C'est un privilège d'être avec vous et je vous transmets aussi les salutations de la paroisse des Buis. Ce matin, ils vivent aussi un temps de culte avec un orateur invité qui prépare une action d'évangélisation pour la semaine prochaine. On vient de vivre un temps de louange vraiment fort. Moi, j'aurais aimé qu'on continue. Enfin, on dit souvent ça, mais il y a des fois on le dit parce qu'on le dit, puis il y a des fois c'est... on sent la présence de Dieu, quelque chose qui est là. Et ce chant qui nous invite à réaliser ce qui se passe déjà dans le ciel, cette adoration qui a lieu dans le ciel, les anges, les séraphins qui sont autour du trône, qui célèbrent le Seigneur. Et c'est vrai, on oublie des fois que ce texte, il est inspiré de ce chant est inspiré de ce texte d'Ésaïe 6 qui a été lu tout à l'heure. Le prophète Ésaïe, il a vu ça. Il a été, alors c'était une vision intérieure, il a été enlevé, on ne sait pas. En tout cas, il décrit quelque chose qu'il a vécu d'incroyable. Et pendant qu'on chantait cela, on sentait tellement la présence de Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'on réalise, nous tous ici, on est assis sur nos chaises. Ça va, vous êtes bien assis? Mais la Bible dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et qu'est-ce qui est le plus vrai des deux? Les deux sont vrais, hein. Mais on a parfois de la peine à réaliser qu'on est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, qu'on est déjà dans le ciel, dans notre esprit, à cause du salut accompli en Jésus, et qu'on est appelé à régner avec lui, de là où il est. On est dans nos contingences d'ici-bas, il y a les enfants qui dorment, qui font du bruit, qui mangent, tout ce qu'on... c'est le monde réel dans lequel on vit, dans lequel on agit. Mais on est déjà aussi dans l'invisible et dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on est, c'est important de se rappeler ça. On est déjà dans ce règne avec Jésus. Et en même temps, on est encore dans ce monde qui est soumis à la fragilité, avec notre humanité qui est encore marquée par la fragilité, le péché. Mais c'est bien que ce matin, on réalise et on n'oublie pas ça. On est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et je crois que le Seigneur, c'est pas dans mon message, mais il aimerait vous encourager dans les temps de louange, dans les temps de culte, dans les temps d'adoration, aller plus loin dans sa présence. Vraiment. Je dis ça, je crois que c'est une pensée de Dieu. Il faut que tu y ailles encore avec d'autres, Sarah. Mais je crois que le Seigneur, il veut vous apprendre à aller encore un pas plus loin dans des temps de louange, d'adoration, ou un peu comme Ésaïe, mais pour nous, pour vous aujourd'hui. On monte dans sa présence et il nous parle et il y a des choses qui sont déposées en nous, qui sont différentes de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on peut connaître. C'est vraiment le ciel qui descend. Et je crois que vous devez réfléchir à ça en tant que communauté et voir comment le vivre. Je pense que vous le faites déjà, mais c'est un encouragement que j'aimerais laisser. Ce matin, j'aimerais parler de l'autorité. On s'est rencontrés il y a... 3 semaines, 1 mois, avec le conseil pour parler de comment l'Église fonctionne, qu'est-ce que c'est que le ministère d'anciens, c'est quoi le rôle du conseil, quelle est la différence entre un conseil, comment on le vit dans l'Église libre depuis longtemps, ou un maître des anciens en place. Et donc ça met beaucoup de questions, mais je crois qu'au fond il y a un des aspects que le Seigneur aimerait nous aider à prendre conscience, c'est l'aspect de l'autorité. Je suis arrivé ici à Genève en 2012 avec Christelle. Jusque-là, je disais un petit peu par hasard, parce que c'est les circonstances qui nous ont emmenés suite à un déménagement, puis un ministère sur la France qui se terminait, et puis ce n'était pas dans notre idée d'arriver à Genève. Et en tout cas pas de servir dans une église en Suisse. On pensait que notre temps était plutôt encore dirigé vers la France. Et j'étais très étonné dans cette période. Vous me direz, on ne devrait pas être étonné, mais tout au début de 2012, alors que je savais que j'allais commencer un service pastoral au Buis, il y a eu un temps où Dieu m'a vraiment parlé. Vous allez me dire, c'est juste normal que Dieu nous parle. Mais vous savez, il y a des... j'espère que Dieu nous parle tous les jours, de manière diverse. Mais cette parole, je l'ai déjà partagée ici, je crois, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je crois que le Seigneur veut visiter cette ville et cette région à nouveau. Il l'a visitée dans le passé. Il y a eu des temps où l'Église a eu un impact, et il y a eu de nombreuses âmes qui entraient dans le royaume de Dieu. Et je crois que le Seigneur, il veut le faire à nouveau. Il veut le faire à nouveau. Genève, d'abord parce qu'il aime les gens ici dans cette région. C'est la première raison et c'est la plus importante. Mais je crois aussi que parce que cet endroit, cette ville, elle a une importance clé dans notre pays, mais bien au-delà, dans le monde. Et Dieu veut visiter cet endroit. Et il m'a montré, vraiment, c'est quelque chose qui est déposé en moi et je sais que pour beaucoup, c'est la même chose. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que juste après, le Seigneur m'a dit, je vais utiliser l'église libre. C'est une famille d'églises. Moi, je découvrais en 2012, je connaissais pas du tout l'histoire de l'église à Genève. Je savais qu'il y avait eu Calvin il y a quelque temps. Et je savais bien qu'il y avait, voilà, on savait, mais... Et il va utiliser cette famille d'églises parce qu'elle a une particularité, elle est genevoise, elle est née ici. Bien sûr, il y a des tas d'autres églises, il y a des tas d'autres croyants, et le corps de Christ, il est bien plus grand que ce qu'on imagine. Et puis, et c'est pour ça que j'aimerais parler de ça, parce que je crois que le Seigneur, il nous emmène dans quelque chose. Il me dit, un des défis, c'est la compréhension, l'exercice et l'acceptation de l'autorité. Et spécialement dans l'église libre. Mais je crois que c'est à Genève. Et que le Seigneur, il veut, c'est un problème humain et planétaire. En fait, le salut, c'est un problème d'autorité. Est-ce qu'on veut reconnaître l'autorité de Dieu ou on veut être nos propres maîtres? Donc, voilà. Mais il y a des endroits où il y a des endroits où, à un moment donné, ça devient quelque chose de clé. Et je crois que le Seigneur, il veut nous toucher, il veut nous interpeller. C'est pour ça qu'il y a cette réflexion sur comment on fonctionne en équipe, comment l'église locale est organisée. Et le Seigneur aimerait restaurer quelque chose. Et avant qu'on lance le PowerPoint, je te dirai, mais pas tout de suite. J'aimerais d'abord dire que Dieu nous a tous créés en tant qu'êtres humains avec un rôle de leader, avec l'idée qu'on doit être là pour influencer, pour servir, pour, entre guillemets, régner, même si on a un peu peur de ce mot, mais avec lui, par lui. Si c'est de nous-mêmes, ça va être terrible. Et j'aimerais juste lire deux textes dans Genèse. 1, 28, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez. Alors, il y a différentes traductions, mais... on est habitué au début, je pense qu'on sait pourquoi on est là, mais quand même ce texte nous dit « rendez-vous en maître et dominez ». Il nous donne le mandat d'exercer l'autorité que lui a. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire croître, multiplier. Adam et Ève devaient donner des noms aux plantes, aux animaux. Donc, quand on donne un nom, il y a une autorité qui est exercée. Et tout ça, c'était comme pour étendre l'acte de création de Dieu. Dieu voulait qu'Adam et Ève soient participants avec lui de ce qu'il avait fait. Et ce mandat, il est toujours le nôtre. On est appelé à dominer, et c'est en servant, bien sûr, à régner, à exercer une influence qui vient d'en haut. On pourrait dire, si on a peur de ces mots, le Seigneur veut manifester son règne au travers de nous. Bien sûr, ça ne vient pas d'abord de nous, de notre propre fond. Sans Jésus, sans être en communion avec Dieu, on ne peut rien faire. Jésus l'a rappelé tellement. Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il y a de nouveau cette idée. Il l'a établi, et ce mot établir dans la Bible est vraiment important. Il ne l'a pas juste posé là, mais il lui a fait une place, il l'a mis en place, il lui a donné ce qu'il fallait pour qu'il puisse exercer son mandat. Psaume 8, versets 4 à 6. Je vous lis comme ça quelques textes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? C'est le psalmiste qui se pose cette question. Il dit, mais finalement, on est quoi, nous? pourquoi le grand Dieu de l'univers, il s'intéresse à nous. Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Regardez votre voisin ou votre voisine. Regardez-le. Et dites-lui, tu as été fait de peu inférieur à Dieu. C'est la vie. Mais dites-le-lui. Parfois, on se dévalorise beaucoup parce qu'on sait les choses pas belles qu'il y a en nous. Puis peut-être qu'on le sait aussi chez notre voisin. Mais la Bible, elle nous dit qu'on est créé à son image. Et ce texte nous rappelle, on est fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Regardez la couronne d'honneur et de gloire chez votre voisin, là. Seigneur, ouvre vos yeux. Alors, bien sûr, on peut dire que le psalmiste, il pense d'abord à Jésus incarné. Mais le texte ne nous dit pas que ça. Il parle de l'être humain. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alors encore une fois, je crois que c'est un texte, ce psaume, il nous parle d'abord de Jésus incarné, mais il nous parle à nous. C'est aussi vrai. Et on peut vivre ça à cause de ce que Jésus a fait, et en lui, et par lui. J'espère que ça, on est convaincus de ça. Mais c'est la place qu'il nous donne. Et donc ça veut juste dire en quelques mots qu'on est fait pour être, c'est un mot actuel, peut-être qu'on ne l'aime pas, mais leader, ou en effet pour influencer là où Dieu nous a placés, pour quelque part être des représentants, oui, le micro, excusez-moi, du royaume de Dieu, dans notre appel, et c'est différent pour les uns les autres. On sait bien, et c'est peut-être pour ça qu'on a peur de l'autorité, je vais faire un petit retour, que l'autorité, le pouvoir, ça a été corrompu sur cette planète Terre. Et c'est pour ça qu'on a tellement de défis. Et qu'on a de la peine, si on regarde l'histoire des hommes, on a cherché toutes sortes de systèmes pour essayer d'organiser la société, la démocratie, l'anarchie, le communisme, des rois, un empereur. Et en fait, aucun n'est parfait. Je crois que c'est Churchill qui disait « La démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes de gouvernement. » Parce que, pourquoi ça ? Parce que le pouvoir, il a été corrompu, ou l'autorité, déjà dans le ciel. Et ça nous ramène à ce qui s'est passé bien avant que l'homme soit créé. La Bible nous rappelle qu'un des anges qui avait la plus haute place dans le ciel, Satan, hein, on l'appelle Lucifer avant, il a souillé le pouvoir et l'autorité. Quand il a chuté, quand il a voulu prendre la place de Dieu, il a amené, il a cassé quelque chose dans l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Et du coup, toute l'humanité, nous compris, on est touchés par ça, comme par tout le reste du péché. Et puis on voit que, eh bien, après qu'Adam et Ève soient créés, qu'ils vont chuter, Cain, il va utiliser la force pour tuer, puis en fait, on pourrait faire tout au long de la Bible, on voit des rois que Dieu a appelés qui deviennent tyranniques, on voit des prophètes qui dérapent, on voit des hommes, des femmes, on voit ça tout au long. Quand on lit le livre des rois, on voit par exemple Rois et Chroniques dans l'Ancien Testament, on voit tous ces rois qui ont bien commencé, qui ont fait en partie quelque chose de bien, mais souvent il est question de, ils ont déplu à l'Éternel. Et ils sont souvent comparés à David qui lui a servi de la bonne manière. Donc simplement, ça nous montre que le pouvoir, l'exercice de l'autorité, pouvoir, autorité, on va définir c'est quoi la différence après, ça a été corrompu. Et on est marqué par ça. Et notre société, et l'Église, et notre humanité est marquée par ça. Mais Jésus a racheté tout cela. Et donc, face à ça, l'humanité, mais l'Église aussi, on a essayé de partager les pouvoirs. On a créé des contre-pouvoirs, comme dans les démocraties. Et parfois, on fait ça dans l'Église. Parce qu'on a tellement peur que quelqu'un ou quelques personnes commencent à influencer et à avoir de l'impact parce qu'on se dit « si tout à coup il tombait ». Et on a tellement peur de ça. Mais du coup, on se limite. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc on trouve des leaders de remplacement, ou alors on change de leader, ou de pasteur, ou de conseil, ou alors on fait plein de choses parce qu'il y a une espèce de peur, une espèce de crainte. Bien sûr, ça peut être à toutes sortes de niveaux. Des fois, c'est pas très grave, et d'autres fois, c'est vraiment paralysant. Quelle est la solution de Dieu? C'est d'abord Jésus. Et si on parle de l'autorité et d'exercer, de servir avec autorité, notre modèle, c'est Jésus. Toute la Bible pointe vers lui. Et le texte clé, je pense, qui nous parle de celui qui peut exercer une pleine autorité, c'est Philippiens 2, quand il est dit que Jésus, qui était égal à Dieu, il était près de Dieu, il était à l'égal de Dieu, la même gloire, il a quitté le ciel, il est devenu homme, et il s'est fait serviteur, et il est allé jusqu'à la mort, et ce texte nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc le modèle de l'autorité, de l'exercice de l'autorité, de l'amour, c'est Jésus, qui quitte sa position, qui quitte ses prérogatives, et qui vient pour servir. Donc si déjà on a retenu ça, l'autorité, c'est fait pour servir. Et ça doit s'exercer dans un service, comme Jésus. Vous connaissez cette histoire quand Jean-Baptiste dit à il voit Jésus qui arrive au baptême et puis lui dit mais non c'est pas à moi de baptiser, c'est plutôt à toi. Puis Jésus lui dit non, il faut qu'on fasse tout ce qui est juste. Vous savez, quand Jésus se fait baptiser, lui il s'identifie à l'humanité perdue. Nous, quand on se fait baptiser, on s'identifie à Jésus pour être sauvé. Mais Jésus, quand il se fait baptiser, c'est un des sens, il s'identifie à cette humanité qui est loin de Dieu, sous la colère de Dieu, et en prenant le baptême, il dit, je suis prêt à aller à la croix. Et Jésus dit, et Jean-Baptiste, il dit, mais je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures, de ses sandales. Pourquoi il dit ça? D'abord, ils n'avaient pas des bottes, ou des baskets, ou des chaussures. À l'époque, c'était à pieds nus, ou des sandales, et ceux qui avaient des sandales, c'est parce qu'ils avaient quelques moyens. Et puis elles étaient attachées. Donc on sait que dans les maisons du Moyen-Orient ou les familles qui avaient un certain niveau, il y avait souvent des employés qu'on appelle esclaves, mais qui avaient plutôt un statut d'employé. Et puis il y avait des classes ou des degrés de service, ouvrier qualifié, ouvrier moins qualifié, si vous comprenez l'idée. Et par exemple, un des esclaves ou des employés qui avaient les plus hautes responsabilités, c'était le précepteur, pas le percepteur. Hein, le précepteur, c'est celui qui était chargé d'enseigner. C'est lui qui enseignait les enfants, les fils de la maison, dans les sciences, dans tout ça, mais à devenir des hommes. C'était un esclave qui faisait ça, bien sûr, dans les familles aisées. Hein, c'était pas dans... Puis après, il y avait, par exemple, on connaît l'histoire quand Abraham envoie... Non, quand Isaac envoie son serviteur. C'est Abraham qui envoie son serviteur chercher une épouse pour Isaac. Puis il envoie... c'est un esclave qui gère tout son domaine, toutes ses terres, tous ses troupeaux, je ne sais plus son nom. Donc on voit, il y avait comme ça des classes d'esclaves. Et puis l'esclave qui était peut-être au début de son service, ou qui n'avait pas beaucoup de capacité, qui était en fait considéré, j'aime pas trop ça, mais c'est qui était au plus bas de l'échelle, c'était celui qui accueillait les gens qui venaient dans les maisons, pardon. Et vous savez qu'un symbole d'accueil, quand quelqu'un rentrait, bien on le faisait s'asseoir, on lui donnait à boire, on lui enlevait ses chaussures, on lui lavait les pieds. Et l'esclave du plus bas rang, hein, c'est celui qui délaçait de l'avant-dernier rang, si on peut dire, c'est celui qui déliait les sandales. Puis après, il y en avait encore un autre qui était au plus bas du plus bas, c'est celui qui lavait les pieds. Vous savez ce qu'a fait Jésus quand il met le comble à son amour et qu'il veut transmettre son œuvre à ses disciples? Il leur lave les pieds. C'est pour ça que Pierre, il est tellement choqué. Parce qu'il dit, mais mon Seigneur, celui qui me ressuscite les morts, il prend cette place la plus basse, du plus humble serviteur. Donc Jésus, c'est le modèle de l'autorité. Il est prêt et il fait ça naturellement. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas un calcul, c'est son cœur est comme ça, il sert. Et l'autorité, on doit servir. Jésus, il a racheté cette autorité, ce pouvoir qui a été corrompu. Il a été confronté au pouvoir militaire. Il a été confronté à tous les pouvoirs et les autorités autour de lui. Il y avait l'armée romaine qui occupait la terre, qui ordonnait aux gens de servir, de les servir. Il a été en contact plusieurs fois avec des soldats, des centurions, il les a guéris. Il n'a jamais encouragé ses disciples à être révoltés. Il a accepté, il a vécu cela. Il était confronté au pouvoir et à l'autorité civile, notamment quand il est dans son procès, on ne va pas prendre tous les textes, mais quand il est face à Pilate et qu'il est en train d'être condamné, Jésus va dire à Pilate, c'est Jean 19, verset 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, on va revenir sur ce texte après, s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et il s'est soumis à Pilate. Il était confronté au pouvoir familial. Il est dit qu'il était soumis à ses parents, qu'il les servait, qu'il les honorait. Et je pense que toute sa vie de charpentier, c'était un charpentier exemplaire. Il a fait un boulot incroyable. Il a servi ses parents. Le pouvoir religieux. Jésus a reconnu le pouvoir religieux. Pourtant, il n'était pas terrible à son époque, pour une grande partie. C'est souvent eux qui lui ont fait le plus de problèmes et qui vont l'arrêter pour le faire crucifier. Mais quand il guérissait quelqu'un, il envoyait, comme la loi l'exige, il disait, vous allez trouver les sacrificateurs, vous allez faire constater votre guérison, et probablement même, ils allaient offrir les sacrifices d'action de grâce. Et Jésus, il s'est soumis à ses pouvoirs pour les racheter, pour les purifier. Le pouvoir économique. On pourrait dire mammon, vraiment, hein, ça, l'argent, c'est souvent un peu tabou. On n'aime pas en parler, puis voilà. Mais en fait, on aime quand même bien avoir un peu d'argent. Il y a un peu de. Mais Jésus, il a payé des taxes injustes. Il s'est soumis à ça. Et il a encouragé à payer l'impôt. Il a vu même le pouvoir satanique sur les foules qui étaient en colère, remplies de haine. Il a vécu tout cela. À la croix, l'épître aux Colossiens nous dit qu'il s'est livré même au pouvoir des ténèbres. D'abord, il se livre à son père, mais il a accepté que les ténèbres, le monde satanique qui était derrière l'intention du procès, il s'est livré, et cet épître, elle nous dit même, c'était là qu'il les a dépouillés en fait. Il a racheté l'autorité, il a racheté le pouvoir. L'obéissance parfaite de Jésus à la croix rachète la nature même du pouvoir. On voit ça dans Philippiens 9, le texte que je vous ai lu avant, ou Matthieu 28, 18. Jésus, quand il envoie ses disciples à la fin de son ministère, il commence en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc première chose, le pouvoir il a été corrompu. Il a été détruit avec toute l'histoire de l'humanité, même notre histoire à nous. Si on regarde de cet aspect-là, on voit combien c'est un défi dans l'histoire de l'Église. Mais Jésus, il a racheté cela. Et si on est en communion avec lui, si on se soumet à lui, si on le laisse régner en nous, si on comprend comment lui, il exerçait l'autorité, on peut exercer une autorité, une grande autorité, qui va influencer. Vous savez ? On a commencé en disant que Dieu nous appelle à régner avec lui, à exercer le pouvoir, à dominer dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de famille, là, dans notre lieu de travail, sur cette planète. Et l'humanité a compris ça pour une bonne partie. L'humanité a rempli en partie ce mandat en faisant toutes les découvertes, enfin toute la culture qui est là, mais c'est marqué aussi par le péché. Mais ce qui est intéressant de regarder, chaque fois qu'il y a quelque chose de significatif qui est fait dans l'histoire du peuple de Dieu, ou même simplement de ce monde, Dieu va presque toujours, je vais enlever le presque, il agit toujours au travers d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Vous avez remarqué ça? Et s'il y a un homme, c'est qu'il y a un grand groupe derrière. Mais souvent, on parle de David, mais il y avait toute son armée, il y avait tous ceux qui étaient avec lui, il y avait tout le peuple. On parle de Moïse, mais il y a une quantité incroyable derrière. Mais il y a un homme, tout à coup, qui va comme permettre à ce que une grande partie rentre. C'est qui la personne, ou les personnes, ou le groupe de personnes pour vers soi? C'est une vraie question. Est-ce que vous croyez que vous êtes les personnes clés pour cet endroit, pour cette génération ici? C'est une vraie, vraie question. Des fois, l'humilité ou la compréhension de l'humilité fait qu'on dit qu'on n'est jamais à la hauteur et puis on se dévalorise et on dès que quelqu'un a, ou qu'on a un discours un petit peu de victoire, il y a comme un esprit, oui c'est un esprit, qui vient et nous dit mais attention, on ne sombre pas dans l'orgueil. Mais est-ce que Jésus était orgueilleux quand il envoie ses disciples et il dit allez parmi toutes les nations? Quand il les envoie, il dit tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Et je crois que le Seigneur aimerait vous encourager, chacun, parce que ce n'est pas que les responsables, hein, ce n'est pas que ceux qui dirigent, c'est chacun, nous sommes tous sacrificateurs, prêtres, c'est-à-dire on a un accès direct au Père par Jésus. On ne passe pas par le pasteur ou le conseil ou les anciens ou les apôtres. Si c'est ça qu'on croit, on est bien loin, c'est une fausse doctrine. Mais n'empêche que Dieu peut utiliser des hommes pour faire une percée, puis on va suivre. Tout au long de la Bible, on voit que Dieu utilise un homme, et puis il y a ou une femme, puis il y a un groupe qui se lève, et puis après le peuple va aller derrière. Vous êtes d'accord avec ça? Qui est-ce que Dieu appelle ici? Alors, il vous appelle tous, mais faire une œuvre qui va bouleverser cet endroit ou cette ville. Et si c'était vous? Et est-ce qu'on peut ce matin se regarder et dire « Seigneur, je suis l'homme de la situation pour ma génération, là où tu m'as placé. » Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Puis on va réfléchir à ça. Et on peut tous penser d'abord à notre famille, notre couple, nos enfants, la responsabilité qu'on a dans notre travail, dans l'église, peut-être dans la commune, peut-être... Et dire, je suis l'homme de la situation pour ça. Je ne suis peut-être pas appelé à construire une arche ou à ouvrir la mer Rouge. Peut-être c'est des choses que personne ne verra. Mais c'est aussi un aspect du règne de Dieu qui veut se manifester. Et si tu penses, il y a quelqu'un qui pense ce matin qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il faudrait que quelqu'un d'autre vienne, bien, demande pardon à Dieu pour cette pensée. Oui, il peut envoyer quelqu'un pour t'aider. Oui, il peut susciter des personnes qui vont venir. Mais il t'a placé là, il y a un mandat qui t'appartient et tu es l'homme ou la femme de la situation. Seigneur, je prie pour que tu guérisses dans nos cœurs et dans nos pensées toute mauvaise compréhension de l'humilité, du fait d'être soumis à toi. Et que tu nous montres, Seigneur, que c'est toi qui nous as appelés et que c'est toi qui nous rend capables. Au nom de Jésus. Vous savez, on a une part pour répondre à ça. Chacun. On peut juste toujours rester des victimes, dire oui, mais on est trop petit, ou on est trop faible, ou on n'est pas assez ceci, ou alors rien. Et puis on voit les problèmes ailleurs, ou en dire... Je parle d'abord ce qui est notre part à nous. Quel parent? Je ne vais pas dire ça, parce que je n'ai pas envie de... Il y a des fois des choses sensibles qui peuvent blesser, j'aimerais pas dire ça. Mais quand on entre dans quelque chose, on croit qu'on va le réussir. C'est normal de croire ça. On croit qu'on va être capable. Alors en tant que chrétien, on croit qu'on va être capable parce que on a la source, parce qu'on peut recevoir... Celui qui va nous rendre capables, ce n'est pas de nous-mêmes. Hein? On peut lancer le PowerPoint? Merci. Hop, il est là. Jésus, on a lu ce texte, il est celui qui a toute autorité. Quand les gens l'écoutaient prêcher, ils étaient frappés de son enseignement. Parce qu'il enseignait avec autorité, il n'était pas comme les scribes, les pharisiens. Pourtant, il y avait des gens brillants, hein, à l'époque de Jésus. Il y avait des théologiens, des gens qui ont écrit des choses, qui avaient une influence forte, incroyable. Mais il reconnaissait Jésus comme celui qui avait autorité. Et puis nous, on a toute l'histoire. Et une des choses qui est extraordinaire, c'est que Jésus, alors ici, il est question des douze, Mais parce qu'il commence avec ses douze, les douze apôtres, il commence l'Église et c'est eux qui vont impulser ce travail. Mais on pourrait dire, il appela Yann, il appela Jean, il appela Isolt, et il leur donna puissance et autorité sur tous les démons pour guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Dans ce contexte ici, il est question de chasser des démons, de maladies. Je crois que c'est beaucoup plus large que ça, hein. Mais Jésus, il veut nous donner et il nous donne son autorité. Amen. Peut-être que ce n'est pas toujours au même niveau pour faire les mêmes choses, pour faire exactement la même... Il n'y a pas eu 35 000 Moïse, par exemple. Il y en a eu un qui a été choisi à un moment donné pour faire quelque chose. Il y a eu un Ananias qui a été appelé pour prier pour Paul après que Paul se convertisse. Mais il a fait son job, hein. Il a cru, alors qu'il est complètement... On ne le connaît pas après, ni avant ni après dans la Bible, mais il a cru à un moment donné que c'était à lui d'imposer les mains à Paul et de le baptiser, de l'emmener. Il a cru ça. Il avait reçu cette autorité. Jésus veut partager son autorité avec nous. Et il est connu comme celui qui a autorité. Et quand on parle de Jésus, c'est important de souligner, il n'a pas une autorité parce qu'il a une grande formation académique, ou il a des diplômes, ou il est reconnu. Tout à coup, il apparaît et il a autorité, d'un point de vue historique. Dans l'Église, c'est important la formation, c'est important de faire des études, c'est important de faire une école biblique, c'est important de faire une école de théologie. Mais quand l'appel de Dieu est là, il y a une autorité. Et nous, on doit la reconnaître, ou on doit l'exercer, on doit s'y soumettre. Il avait cette autorité parce qu'il était parfaitement soumis au Père. Toute autorité, la Bible le souligne, elle vient de Dieu. Quand on lit ça, c'est facile. Mais si par exemple on était chrétien en Corée du Nord aujourd'hui, c'est peut-être un verset qui nous poserait problème, hein. Quand il est dit, hein, Romains 13:1, Paul, quand il écrit ça, il est en prison, il est dans un cachot, hein, de manière injuste. Et il dit que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Il parle plutôt des autorités civiles ici, mais pas que civiles. C'est toute autorité. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Et Paul, il écrit ça quand il est en prison à Rome. Alors, on ne pourra pas aller très loin là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait quand les autorités ne sont pas bonnes? Mais est-ce qu'elles étaient bonnes quand Paul lui écrit ça? Non. Et jusqu'où il s'est soumis? Jusqu'où il n'a pas été soumis? Jusqu'où il a... Il y a des moments, quand on parle de Paul, il est arrêté. Puis, parce qu'il sait que Dieu l'appelle à aller à Rome, il pourrait être libéré par les autorités juives. Il dit non, moi je suis aussi citoyen romain. Cette fois, on va aller jusqu'à César. Hein, il a utilisé ce que la loi lui permettait de faire. Vous êtes d'accord? Mais son but, parce qu'il savait que Dieu l'appelait à être témoin, même à Rome. Toute autorité vient de Dieu. Christ nous donne son autorité, on l'a lu. Je ne vais pas m'attarder sur ce tableau, mais souvent on dit que l'autorité ou les autorités, c'est comme un... C'est symbolique, c'est comme une espèce de parapluie qui sous lequel on peut être sous la protection, la bénédiction de Dieu. Hein, Dieu règne, et quand on est au bénéfice de son règne, on est bien. Et puis on va dire, il y a deux grandes parties d'autorité, les autorités invisibles dans le ciel. Il y en a une partie qui sont bonnes, Dieu, le Seigneur, bien sûr, les anges. Il y a une partie de cette autorité qui est mauvaise, hein, Satan, les dominations, les autorités, les démons. Et puis, il y a les autorités sur la terre. Alors, bien sûr, je crois que quand on se convertit, on passe d'être soumis à cette partie-là, et on est sous l'autorité de Dieu, bien qu'on a encore une influence des ténèbres. Et puis, il y a toutes les autorités sur terre. Et Jésus nous a enseigné en disant « Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. » Ce n'est pas du dominionnisme, hein. Ce n'est pas une doctrine à la mode, mais c'est quand même ça qu'on doit prier. Puis après, on pourrait dire qu'il y a trois grands endroits d'autorité. On pourrait les décliner. L'autorité familiale. Hein, il y a, la Bible parle qu'il y a un ordre dans le couple, que les enfants sont soumis à leurs parents, que les parents doivent aimer leurs enfants, etc. Et la même chose pour les autorités civiles ou l'État. Et il y a aussi beaucoup de textes qui parlent de l'autorité dans l'Église. Jésus est la tête, il est l'autorité supérieure. Ensuite, il est dit qu'il donne des ministères de direction. Il est dit qu'il y a ceux qui dirigent, les anciens, hein, voilà. Et cette autorité, c'est un peu, quand on comprend bien l'autorité et qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est quelque chose qui nous protège. C'est quelque chose qui, c'est comme si le règne de Dieu passe au travers de cela, surtout quand c'est une bonne autorité, hein, et on est protégé. Alors, je ne suis pas en train de dire que, vous savez, il y a des excès dans certaines doctrines où on parle de la couverture spirituelle. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, où on doit être soumis à un pasteur ou un apôtre, où on va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Notre couverture, notre protection, c'est le Seigneur. Et c'est quand on est soumis à lui, automatiquement, on va se soumettre de bon cœur à ceux qu'il a établis. Et n'allons pas trop loin. Mais c'est quelque chose qui nous protège. Quand des parents s'aiment, Yann aime Sarah et qu'ils ont une bonne relation et qu'ils vivent sainement entre eux, c'est une protection pour leurs enfants. Vous êtes d'accord ou pas? Et aussi, tant que leurs enfants acceptent ça, qu'ils sont soumis et qu'ils grandissent, mais même un enfant, à un moment donné, peut se rebeller contre l'autorité de parents aimants et sortir, et puis il va lui arriver des bricoles parce qu'il est sorti d'une protection. Et un mystère, c'est que Dieu accepte qu'on sorte de sa protection. On est vraiment libre. Hein? Enfin, on est libre de nos choix. Vraiment libre. En tout cas, on a une possibilité de choisir. Et c'est quelque chose qui nous protège. Et c'est aussi vrai dans l'Église. Bien sûr, quand on pense que tout va bien, mais c'est quelque chose qui nous protège. C'est quelque chose aussi, si on pense à des enfants, qui permet qu'on se développe, qu'on grandisse. Et qu'on devienne adulte, qu'on arrive à notre plein potentiel. Et on pourrait remplacer cette famille-là par l'église, l'église locale. L'église locale, c'est comme une extension de la famille. Alors, Yann, ce n'est pas votre père, hein? Vous savez ça quand même. Mais il y a cette idée des autorités, de se protéger les uns les autres, de se servir les uns les autres. Christ délègue son autorité sur d'abord les 12 dans la Bible. Hein, il leur donne force et pouvoir. On va lire ça juste après. Puis ensuite, c'est le désir du Seigneur de partager. Et vous savez, quelqu'un qui exerce une autorité, on parle d'apôtre et on aimerait reconnaître ce que le Seigneur connaît, ce que le Seigneur appelle. Ou le micro, merci. Je suis soumis. Hein. Mais la caractéristique de quelqu'un qui a une vraie autorité, c'est qu'il veut la partager. Vous voulez reconnaître quelqu'un qui a une vraie autorité? C'est un truc tout simple, c'est qu'il veut la partager. Il veut une équipe, il veut des gens, il veut se multiplier dans ces personnes. C'est quelque chose de très simple. Si vous avez un ministère ou tout à coup quelqu'un qui vient et qui protège son champ d'action, son domaine, il y a quelque chose qui est dépravé. Une vraie autorité, elle veut la partager. Moïse, il a été longtemps tout seul, il a souffert de ça. Puis Dieu lui a donné Josué. Puis après, à un moment donné, il voit son beau-père qui lui dit, mais tu vas t'épuiser. Partage, délègue. Et Moïse, il rentre à plein là-dedans. Et il donne. C'est quelque chose de simple. Si on a peur de quelqu'un qui va aller trop loin, est-ce qu'il partage son autorité? Quelque chose de. Jésus la délègue ensuite sur les bergers, les pasteurs, les anciens, les responsables d'école du dimanche, sur les parents pour aller très loin, avec des mandats et des zones différentes. Sur chacun de nous, c'est ce qu'on a dit tout au début. Juste qu'on comprenne la différence, il leur donna puissance. En grec, c'est. Alors, je ne suis pas expert en grec, mais il y a des outils qui nous permettent quand même d'aller un petit peu plus loin, c'est le mot dynamis. Vous recevrez une puissance qui a donné dynamite, par exemple. C'est l'idée de force, de capacité. Et puis autorité, c'est exousia, c'est un autre mot grec et on pourrait traduire, et ça nous aide à comprendre, dynamis, c'est le pouvoir, c'est la capacité, je peux, j'ai la force, j'ai le Hulk, c'est ça. Et par le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne sa force. Mais si on n'est pas dans l'autorité qu'il nous a donnée, on peut faire des choses mauvaises, même avec l'Esprit de Dieu. Quand on lit l'Ancien Testament, et puis l'histoire de l'Église aussi. Puis l'autorité, c'est le droit légal. Hein, le pouvoir, mais c'est le droit légal. C'est le droit garanti par une autorité supérieure. J'ai le droit, mais j'ai aussi le devoir d'exercer cette autorité. Dans un couple, il doit veiller sur sa femme. La Bible le dit, le bon sens le dit, nos lois civiles le disent. Il doit l'aimer, il doit en prendre soin, il doit veiller sur elle. L'épouse doit aider son mari. Enfin, tous ces textes, on les connaît. C'est l'autorité. C'est si je suis policier, eh bien je reçois le droit légal, et qui est symbolisé peut-être par d'abord mes diplômes et puis le contrat que j'ai signé, mais souvent par même un vêtement ou un bâton ou un sifflet. J'ai le droit légal de faire respecter les lois de la circulation, etc. Mais si tout à coup Sarah, elle est dans la rue, elle se met au carrefour parce qu'elle a toute autorité en Christ et qu'elle veut faire la circulation, ça va pas bien marcher. Elle est peut-être remplie de l'esprit, elle a une grande voix, elle a un sifflet dans la bouche. On pourrait dire qu'elle aurait la puissance, mais ce n'est pas son domaine. Et vous voyez, des fois, on est à côté de l'autorité. Ou si on reprend l'idée de la famille des enfants, c'est à eux d'aimer leurs enfants, de les éduquer, de les corriger, de les élever. C'est à eux, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi, c'est personne d'autre. Nous, on peut voir, peut-être, et puis on peut prier pour eux. Ou peut-être, et je mets beaucoup de peut-être, parfois on voit quelque chose, on peut aller dire, et peut-être donner un conseil ou une idée. Mais si on veut faire à leur place, on a peut-être la puissance, parce qu'on est... On a plein de diplômes, parce qu'on est respecté, parce que, etc., etc., mais on n'a pas le droit. Et dans l'Église, c'est la même chose. Vous pouvez reprendre cette idée avec... Si on nous a pas donné un mandat, d'abord le Seigneur, et puis ensuite l'Assemblée, d'être ancien, de diriger, de gérer l'équipe, l'école du dimanche, on n'a pas le droit légal de le faire. On peut y aspirer. La Bible dit on peut aspirer à beaucoup de choses. Mais c'est quand on est à la bonne place, qu'on a reçu le mandat de Dieu, des hommes, qu'on le fait dans une juste attitude, qu'on a une vraie autorité. Vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit aussi être guéri là? Si on choisit une équipe qui nous dirige, si on croit que dans tout le processus, les choses ont été bien faites, marchons avec cette équipe, marchons avec le pasteur. Est-ce que tout le monde a la même autorité que Yann dans l'Église? Par exemple. Non. Il a un mandat d'être le berger de l'Assemblée, jusqu'à une certaine mesure de vous aimer, enfin ça pas non, tu dois les aimer, de vous corriger, de donner une impulsion. Il n'est pas tout seul, il y a un conseil, il y a d'autres leaders. Mais est-ce qu'on accepte ça en profondeur? Vraiment? Et est-ce que parfois on ne reconnaît pas, ou ça peut nous arriver que nos craintes ou nos ambitions personnelles peuvent être... Je ne parle pas juste de vers soi, c'est très général, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est pour qu'on comprenne les défis. Hein, parfois, on n'aime pas tel ou tel style, ou on n'aime pas telle ou telle chose, et on va utiliser un peu de notre influence pour... Est-ce qu'on n'est pas dans l'insoumission à ce moment-là? Et tout ça, c'est très subtil. Et je crois que le Seigneur, il veut nous aider, il veut nous guérir. L'autorité dans l'Église, elle s'exerce pleinement quand on comprend qu'on est un corps. Je vais arriver au bout. On l'a dit au début, la condition préalable pour exercer l'autorité, je ne vais pas y revenir beaucoup, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est d'abord la soumission. La soumission, Jésus était pleinement soumis à son Père. Et on l'a vu, il était soumis à toutes les autorités en place. Il avait un esprit de serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples, il était esclave. Mais il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et si on veut exercer une influence, si on veut exercer l'autorité que Dieu nous donne, notre cœur, et ça doit être, c'est notre nature qui doit être comme ça. C'est là qu'il y a un défi. C'est pour ça que sans Jésus, on ne peut pas le faire. Si c'est juste un calcul parce qu'on a compris comment ça fonctionne et que notre esprit est quand même capable de faire de certains trucs, mais que notre cœur tout au fond n'est pas soumis, ça ne marche pas. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus, il était soumis au Père, c'est pas parce que c'était un calcul mental, c'était sa nature profonde. Et c'est pour ça qu'on doit prier. C'est pour ça qu'on doit adorer le Seigneur. Quand on l'adore, on est changé à son image. Parce qu'on devient comme... On devient la même personne que celle qu'on adore. Jusqu'à un certain point. Et puis une autre chose, et je termine avec ça. Il y a quand même le respect de la sphère. Vu le temps, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Je vais lire un texte après, mais pardon. Ce mot métron, qui est traduit par sphère ou zone ou limite dans le Nouveau Testament, ça parle de la sphère de l'autorité. Je reprends l'image du couple. Yann a autorité, dans le sens biblique du terme, sur Sarah. Vous êtes d'accord, hein, mais il n'a pas autorité sur une autre dame de la même manière. Vous êtes d'accord avec ça? C'est juste une évidence. Son métrone en tant que mari, c'est son épouse, c'est ses enfants, c'est cette zone dans laquelle Dieu lui a donné une autorité. Et il a le droit, mais tu as le devoir en plus de l'exercer. Quand on a reçu un mandat, on a non seulement le droit, mais on a le devoir. Vous êtes d'accord avec ça? Et on pourrait prendre le même exemple avec Sarah. Elle a le droit et elle a le devoir dans l'autorité, dans la relation avec Yann et envers leurs enfants. Et donc dans l'Église, c'est la même chose. Ou dans ce que le Seigneur nous demande de faire. On a, à un moment donné... Je reprends l'image, c'est pas pour mettre l'accent sur Yann, mais c'est pour être concret dans la situation. On l'a établi comme pasteur, il a le droit d'exercer son ministère pastoral. Peut-être qu'il y a une réflexion ensemble avec vous, c'est quoi les limites, c'est quoi les choses qu'on va partager, c'est quoi les choses, les aspects qui ne sont pas directement... Mais il a le devoir. Et donc, et nous alors? Et on pourrait parler de ça pour chacun. Frédéric, qui est avec les enfants aujourd'hui, on lui a délégué ça, il était prêt à le faire avec les ados, et il le fait, il l'a fait avec son épouse pendant des années. C'était un service. Il a reçu ce droit, il a aussi ce devoir, du coup. Et qu'est-ce qu'on fait? On va tout faire pour qu'il puisse le faire au mieux. On va l'encourager, on va le libérer pour qu'il puisse faire ça, on va essayer d'envoyer nos enfants pour que tout ce qu'il a préparé, eh bien, ce ne soit pas en vain. C'est la même chose pour tous les ministères, en fait. En tant que corps, eh bien, on va essayer de servir et de mettre nos forces à nous envers celui qui a tel ou tel mandat dans l'Église. Sarah a dirigé la louange ce matin. Donc, elle avait une autorité et un droit légal de nous diriger. Alors, elle n'a pas choisi les chants, hein? En partie. Mais on n'a pas remis ça en question, elle l'a... Et bien, voilà, on était avec et on s'est soumis, puis on est entré dedans. Et donc, c'est comme ça que fonctionne l'autorité. Et, et aussi avec les ministères, avec les anciens. Le Seigneur, il aimerait vraiment nous aider à ce qu'on n'ait plus peur. Et qu'on n'ait pas peur que Dieu lève des personnes ou des équipes qui peut-être vont faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude. On parle souvent de Calvin. Quand il est arrivé ici, il a drôlement révolutionné la ville. Hein. Puis des fois, on oublie qu'ils l'ont viré, bien fort, et l'Église et les autorités, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ça le dérangeait trop, et puis il est revenu. Donc ça ne s'est pas fait tout seul comme ça. Il y a eu des défis. Hein, juste pour revenir à ce mot métrone, et c'est important de comprendre ça. 2 Corinthiens 10, 13, c'est quoi la limite de notre autorité? Paul il donne ici un texte, c'est plutôt par rapport à l'évangélisation et là où il a le droit, il a l'impression qu'il a le droit d'intervenir. Paul il avait compris ça. Nous prendrons comme mesure, metron, hein, et limite, c'est aussi ce mot metron, les limites. En fait, dans le grec, c'est qu'un seul mot, ça. Les limites du champ d'action que Dieu nous a confié. Aussi, nous ne dépassons pas les limites de notre domaine. Yann, il s'occupe de ses enfants, il ne va pas faire l'éducation des enfants des autres, dans son rôle de... On reste dans notre domaine d'action. Nous n'avons pas une fierté démesurée comme si nous nous vantions d'un travail accompli par d'autres, dans les limites de notre champ d'action. Nous pourrons aussi annoncer la bonne nouvelle dans les régions situées au-delà de chez vous, sans nous vanter du travail accompli par d'autres dans leur propre champ d'action. Et Paul, il avait bien compris ça, il le démontre par sa vie. Il savait le mandat que Dieu lui avait donné, il savait même la zone géographique où il devait être. Il savait ce qui dépendait directement de lui, puis à d'autres moments, il savait que ça dépendait d'autres. Par exemple, quand il commence son ministère, et puis qu'il commence à prêcher, puis il a du fruit, ben à un moment donné, on lit dans le livre des Actes, qu'il va voir les autres anciens, les autres apôtres à Jérusalem, parce qu'il veut leur soumettre ce qu'ils prêchent. On lit ça dans Galates et dans le livre des Actes. Parce qu'il reconnaît qu'ils ont une autorité, ils ont une zone d'influence, et lui-même, volontairement, il va dire « Est-ce que je fais ?» C'est juste. Parce qu'il dit « J'ai pas envie d'avoir couru et d'avoir travaillé en vain. » Et donc, quand on est dans notre zone, et quand on est là où Dieu nous a placés, quand on sait que c'est ça que Dieu nous demande, on a une vraie autorité. Parfois, c'est pas si simple à comprendre, c'est parfois pas si simple à reconnaître quand, par exemple, quelque chose n'existe pas. Et si Dieu levait un ministère de prophète au milieu de vous ? Je crois qu'il y a des dons prophétiques. Beaucoup de gens exercent des dons prophétiques. Mais s'il y a un ministère de prophète, c'est un autre niveau. C'est pas si simple quand on n'a jamais vécu dans une église. Comment on va s'y prendre? Comment on va le reconnaître? Quel est le mandat qu'on va lui donner? Vous êtes d'accord qu'il y a un petit défi? Je termine. Il peut y avoir des distorsions, même quand on est appelé, même quand on est à notre place. Et on doit veiller à ça. L'autorité, dans un excès d'autorité, on peut être autoritariste. J'ai raison parce que je suis le pasteur. J'ai raison parce que je fais partie du conseil et vous devez vous soumettre à moi. Si c'est juste pourquoi c'est pas bien, parce que ça marchera pas en fait. Hein. Il peut y avoir aussi de la manipulation et on doit reconnaître que ça peut nous arriver. Si on reconnaît pas que ça peut m'arriver, que ça peut nous arriver à tous, avec nos enfants, dans l'église, on est en danger. C'est une fausse délégation, elle est contrôlée, ou alors on fait du chantage pour donner de la promotion dans l'église, ou alors on enseigne des choses comme il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel. Hein, on n'a rien le droit de dire aux pasteurs, aux anciens. Mais qu'est-ce que la Bible veut vraiment dire avec ce texte? Ou alors cet autre texte, ne quittez pas votre assemblée. On connaît bien ça. Mais qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? Est-ce que c'est une menace si on quitte l'église locale ou est-ce qu'il y a un autre sens? On peut comme ça manipuler. On peut aussi abdiquer. Et ça, c'est dangereux. On refuse d'exercer l'autorité parce que ça nous coûte. Parce que peut-être on doit aller confronter des personnes et on n'a pas très envie. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Des fois, en tant que pasteur, vous avez vraiment envie de dire ça. Tout à coup, vous voyez qu'il y a des vrais défis dans une famille ou des choses et... En théorie, c'est facile, mais des fois, on a envie de se dire, bon. Mais ça pourrait être pour d'autres choses. David, je prends cet exemple. Le roi David, on le cite en exemple. Il était un homme extraordinaire. Hein. Il a remporté des victoires, il a étendu le royaume de Dieu. Vraiment, il est cité comme un modèle. Mais il a eu des failles. Alors, on connaît l'épisode avec Dalila. Ah non, ça c'est Samson. Bathsheba, merci. Ça va, vous écoutez encore. mais avec ses enfants, est-ce qu'il a bien exercé l'autorité paternelle? À mon avis, c'est très, 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 même très moyen. Vous savez que l'épisode de Samson, il aimait Samson. Non, pas Samson. Absalom, merci. Il aimait Absalom. Et quand on lit bien, on a l'impression qu'il y a une petite préférence, parce que peut-être il lui ressemblait un peu. Puis Absalom, il dérape, et il sort clairement de son autorité, il fait des choses. Et jamais David l'a confronté. Il se lamente, il dit « Oh là là !» Et en fait, il va perdre Absalom. Il va mourir. Mais je crois que David, il n'a pas exercé l'autorité qu'il aurait dû. Est-ce que, en tant que ministère, ou pasteur, ancien, prophète, ce que vous voulez, est-ce qu'on a toujours le cran de confronter? Des fois, on doit confronter. Mais des fois, on ne veut plus confronter parce qu'on s'en est pris tellement dans les dents par l'Église ou les conseils ou les gens qui veulent. C'est une réalité aussi. Je crois qu'on doit l'entendre. Paul, il n'a pas eu peur de reprendre Pierre, son pote, qui était apôtre avant lui, qui avait vu Jésus. Vous savez, quand à un moment donné, Pierre, il est en train de... Il n'est pas très franc dans sa relation avec les judaïsants et les autres. Et Pierre, il le reprend et même il l'écrit. Vous vous rendez compte? Tout à coup, j'ai quelque chose contre Mwanza Bulondoe, le pasteur de Carouge, et je l'écris. Et puis je fais circuler ça dans les églises. Mais Paul, il l'a écrit. Hein. Et Pierre, il a recommandé qu'on lise les écrits de Paul. Vous voyez, ça va loin quand même. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que je crois que Paul, c'était ça la manière dont il faisait. Puis quand il en a parlé avec Pierre, Pierre, il a reconnu que c'était vrai. Et du coup, c'était pas un problème. Puis c'était pas un problème pour les autres. Ils ont dit, oh Pierre, ta gnagna, va te cacher. C'est fini pour toi. Non, ça a dû se passer, tout ça. Vous croyez pas? Je m'arrête. Le Seigneur veut nous encourager, il aimerait vous encourager à entrer dans l'autorité qu'il nous donne pour servir et pour avoir un impact avec les personnes qu'il vous donne, avec les gens qu'il a mis sous votre autorité, mais aussi pour faire des percées dans cette ville, dans Versoix, dans ce qui va être vécu aussi en tant que paroisse. Sarah, vas-y dans la louange. Lâche-toi des fois, vraiment. Ça fait partie de ça. Dieu t'a donné une autorité, il t'a donné des dons, il t'a donné une onction. Il y a des fois, tu dois courir. C'est une image de entraîner les gens à aller plus loin. C'est ça, exercer le ministère. Seigneur, on te dit merci. Parce que Jésus, tu es le parfait serviteur. Et on est venu là ce matin parce qu'on t'aime. Et tu as exercé une autorité incroyable. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu le diable. Parce que tu es venu pour servir. Parce que tu es venu avec un cœur de serviteur. Et Seigneur, je prie encore ce matin que ce qu'on a partagé, bien ça descende dans nos cœurs, dans nos pensées, ça vienne guérir, Seigneur, notre compréhension, notre acceptation, notre exercice de l'autorité. Là où tu nous as placés, dans ce que nous sommes appelés à faire, chacun personnellement, mais aussi ensemble. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour notre corps, tu vois, qui est un ensemble d'organes tellement différents, mais quand ils sont connectés les uns aux autres, chacun à leur place, c'est quelque chose d'incroyable. Et Seigneur, aide-nous à ce qu'il n'y ait pas de cancer dans l'Église, ou à ce qu'il n'y ait pas des dysfonctionnements, ou des paralysies, ou des amputations, ou des manquements, mais qu'il y ait un corps qui soit sain, qui grandisse ici, toujours plus à Versoix, et dans cette ville, au nom de Jésus. Amen.